À nouveau, bon après-midi tout le monde. On va commencer. Cet après-midi, ceux qui vont ouvrir le bal sont Marie-Pascale Martorell et François Lafont. Je vais laisser Marie-Pascale présenter François.
Bonjour. Alors, François, c'est un des petits-enfants, donc, du grand-père que vous avez rencontré ce matin. Autrement dit, ça doit être la troisième ou quatrième génération. Je le connais depuis 2006 parce qu'en fait, on était ensemble en deuxième cycle et troisième cycle au CIG. Alors, quand je pense à François, moi, quand je partais du CIG pour aller rentrer à Paris, lui, il partait pour Chypre parce qu'il était psychologue clinicien dans l'armée canadienne et il s'occupait, et s'en occupe encore, des soldats qui sont en activité. Donc l'expérience de François, elle est liée au trauma depuis 25 ans, voire même plus. Il s'est d'abord occupé de jeunes dans des tribunaux, de jeunes qui avaient des abus. Puis ensuite, il est devenu donc, dans les années 2000, psychologue clinicien dans l'armée américaine, canadienne. Et puis, ce n'est pas enregistré, ok. Psychologue clinicien dans l'armée canadienne. Et aujourd'hui, il dirige un programme de prévention pour les forces spéciales de police du Québec qui sont mises en situation de stress post-traumatique, notamment quand ils sont confrontés, par exemple, à des actes, quand les policiers sont confrontés à des actes de pédophilie, etc. Et François dirige ce programme de prévention et de formation. Je vous dis tout ça parce qu'on va donc parler du champ 3T, champ 3 traumatique. Et François donc est un expert là-dedans. Et je suis très très heureuse qu'il puisse venir présenter ici ce qu'il a, je qualifierais, inventé en PGRO.
Merci Marie-Pascale. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? D'ailleurs, d'où vous êtes, vous devriez normalement entendre mon cœur battre. Je pense que je suis plus à l'aise avec les traumas des autres qu'avec les miens. j'ai mis un peu de folklore dans la présentation et j'aimerais parler du contexte du binôme que nous formons, Marie-Pascale et moi. En fait, Marie-Pascale, j'ai connu Marie-Pascale alors que nous étions au deuxième cycle en PGRO à Montréal. À ce moment-là, Marie-Pascale vivait et travaillait à New York. Par la suite, j'ai connu Marie-Pascale au troisième cycle à Magog, alors que Marie-Pascale vivait et travaillait à Londres. Et par la suite, nous avons fait une masterclass ensemble en 2012, alors que Marie-Pascale vivait et travaillait à Paris. Marie-Pascale n'a pas qu'une envergure géographique, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément d'envergure intellectuelle, et pour moi, c'est un vrai bonheur d'avoir pu partager ce travail-là avec elle. D'ailleurs, pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel nous avons entrepris ce travail-là il y a à peu près 2 ans, Marie-Pascale m'a dit, bon, on devrait faire quelque chose ensemble dans le cadre de cette rencontre internationale-là. Ouais, OK. Mais elle a dit tout de suite, moi, je ne veux pas faire quelque chose de convenu. Je ne veux pas travailler sur des terrains connus. Je veux défricher, je veux débroussailler, je veux sortir en dehors de ma zone de confort, vous imaginez? Alors, je dis, bien, c'est parfait, c'est excellent, on est vraiment fait pour travailler ensemble. Viens dans ma zone de confort, tu seras où tu veux. Puis moi, peut-être que je pourrais te suivre. Alors, c'est ce qu'on a convenu ensemble. Et ma zone de confort, à moi, c'est le stress post-traumatique. C'est un peu maladroitement exprimé, mais je pense que vous avez compris. C'est la problématique de la plupart de mes clients qui sont soldats. Je travaille pour l'armée canadienne depuis 2000. Avant ça aussi, j'avais souvent été confronté avec des gens qui souffraient de stress post-traumatique. Alors, le champ, ce qu'il faut comprendre de ma démarche à propos de ce que j'appelle, qu'on appelle peut-être un peu prématurément ou abusivement le champ 3T, le champ 3 traumatique, c'est pas d'abord une démarche théorique. C'est pas une démarche déductive, si vous voulez. C'est davantage une sorte de nécessité clinique. qui, moi, est un BGRiste, et je l'affirme, et j'en suis fier et heureux, de pouvoir adapter, ajuster un peu mon travail comme PGRiste avec cette clientèle. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, dans la salle, qui n'ont pas vraiment été introduits à la PGRO de manière formelle par un enseignement. Alors, ce dont je vais parler ici n'est peut-être pas une très bonne introduction à la PGRO, certainement pas, mais peut-être une introduction valable au stress post-traumatique. Alors, juste pour mettre un peu dans le contexte de ce que c'est que la réalité du stress post-traumatique, les gens qui souffrent d'un stress post-traumatique vivent au quotidien le drame qu'ils ont connu, le trauma qu'ils ont connu, et le vivent d'une manière très importante et bouleversante, souvent sous la forme d'images intrusives, de souvenirs intrusifs, de flashbacks qui sont provoqués par des conversations, des odeurs, même parfois, pour certaines personnes, un certain type de météo va les ramener au champ de bataille. Et je pense que c'est assez connu, ça, hein? La dimension intrusive des flashbacks du stress post-traumatique. Mais aussi, l'émotion prend la teinte du trauma, c'est-à-dire cette rage-là, cette peur-là, ou cette angoisse de séparation-là, cette peine-là d'avoir perdu, c'est une émotion qui, depuis le trauma, teinte quotidiennement l'humeur ou l'affect de la personne qui en est victime. Et par le fait même, les représentations de soi et du monde sont altérées. Quand on a des gens qui souffrent de stress post-traumatique, on a deux discours. Un premier discours qui est ce qu'ils savent et l'autre discours qui est ce qu'ils sentent. Ils peuvent très bien concevoir et savoir que sur un plan statistique ou probabiliste, ils sont en sécurité au Canada ou en France, c'est des Français, et que le monde est généralement bon, qu'ils sont aussi des bonnes personnes. Mais ce qu'ils sentent, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils se sentent en danger, ils se sentent menacés, ils sont dans la peur ou dans la honte ou dans la culpabilité. Et c'est cette émotion-là qui transforme leur représentation. Vous avez beau savoir que vous êtes en sécurité, si à l'intérieur de vous, c'est la peur qui gronde, bien, vous allez avoir tendance à vous représenter le monde, les autres et vous-même comme étant en danger, le monde comme étant menaçant. Et le corps aussi qui rejoue l'expérience du trauma, l'expérience de la fuite, l'expérience du trauma. Alors, ces tensions-là dans le corps qui se déplacent et qui, à un moment donné, vont prendre la couleur ou vont prendre les caractéristiques du combat avec un certain type de tension ou de la peur, soit par la paralysie ou une tendance toujours à fuir, ou de la tristesse, de l'angoisse de séparation par une sorte de dépression chronique liée à la perte et souvent à la perte même de personnes qui ne sont pas significatives. Et c'est ça qui est particulier dans le stress post-traumatique, c'est qu'on voit des gens endeuillés de personnes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont juste entrevues et qui sont restés avec cette détresse-là empruntée, hein, téléchargée de l'autre. Je pense qu'en PGRO, on est assez bien équipé pour ressentir et comprendre et interpréter ces choses-là, ces phénomènes-là. Donc, hein, le stress post-traumatique, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et ce n'est pas nécessairement la représentation. En fait, ce n'est pas nécessairement la définition exacte du DSM, mais je pense que ça donne les principaux symptômes. Pourquoi le trauma? En fait, la question, ce n'est pas pourquoi je parle du trauma, mais pourquoi le trauma survient. C'est une diapositive que je viens d'ajouter. Et c'est vraiment à la demande de Marie-Pascale qui m'a dit « Mais François, il faudrait quand même bien que tu parles de pourquoi le trauma survient. » Alors, j'ai écouté Marie-Pascale, évidemment. Et savez-vous, c'est une des diapositives que je redoute le plus parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments conceptuels à intégrer pour que ça soit clair. Alors, je m'essaie. D'abord, évidemment, pour qu'il y ait un trauma, il faut qu'il y ait une menace grave contre soi ou contre l'autre. C'est important de ne pas oublier ça. Et ma compréhension, parce que là, on parle de ma compréhension de la survenue du trauma, celle dont je me sers en psychothérapie, c'est qu'il y a le déploiement d'abord d'une réponse instinctuelle qui, elle, est automatique, inconsciente et involontaire. Et ça ressemble, en fait, ça va dans la lignée de ce dont parlait Jean-François ce matin avec les systèmes émotionnels de base de Panksepp, qui sont des systèmes sous-corticaux, donc qui interviennent sans demander la permission ou même sans aviser le cortex bien souvent, et qui prennent en charge le comportement, les émotions, les réactions. Imaginons, par exemple, qu'un groupe de terroristes rentre ici par la porte de derrière. Personne ne s'est retourné, je vois que je n'ai pas beaucoup d'influence. C'est pas très suggestible. Imaginons qu'ils rentrent. Imaginons qu'ils entrent ici et qu'ils se mettent à tirer sur tout ce qui bouge. Parions que vous allez réagir. Et parions que vous n'êtes pas préparé à ça. Mais parions, malgré tout, que vous allez déployer des comportements. La plupart vont peut-être tenter de fuir. Beaucoup aussi, compte tenu, parce que là, est-ce qu'il y a des sorties de secours? Je ne veux pas inquiéter personne, peut-être que c'en est une. Peut-être que plusieurs d'entre vous allez figer aussi. Parce que si vous ne percevez pas de sortie possible, de fuite possible, il est possible que vous allez figer, donc, dans un état de dissociation, ce qui va peut-être avoir l'avantage de vous rendre moins attrayant pour un tireur qui aime tirer sur tout ce qui bouge, comme je disais. Peut-être aussi que ça va vous permettre de recevoir une balle et de moins souffrir, parce qu'on sait que dans cet état de sidération-là, il y a une forme d'anesthésie, de dissociation qui se fait. Alors, supposons que vous avez fui. Jusque-là, ce qu'on a, c'est des mécanismes instinctuels qui se déploient, mais on n'a pas encore de trauma. Ce n'est pas parce qu'on fait face à un danger et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, les instincts prennent le dessus qu'on va nécessairement rester traumatisé. Ce qui fait le trauma, c'est que ces réponses instinctuelles-là, ces processus primaires-là, restent enclenchés de manière chronique. Et la question qu'on doit se poser, si on accepte ces prémices-là, cette hypothèse-là, c'est pourquoi reste-t-il enclenché? Il reste enclenché probablement parce qu'ils sont interrompus. Ces mécanismes-là ont une logique. Ils sont enclenchés de manière automatique, involontaire, inconsciente, et ils sont probablement éteints aussi, désenclenchés, je ne sais pas si on peut dire le mot, éteints par des processus aussi qui sont probablement automatiques, involontaires et inconscients. Des processus qui prennent leurs racines dans le corps. Et ces processus-là, si on essaie de les imaginer dans l'exemple que j'ai donné, vous avez fui. À un moment donné, vous êtes en sécurité. Vous pouvez le savoir corticalement. Vous pouvez avoir le raisonnement que vous êtes et la certitude corticale que vous êtes en sécurité. Mais votre corps doit le savoir, lui. Et il n'y a pas nécessairement une communication entre les deux. Et comment le corps le sait-il? Ma compréhension de ça rejoint un peu celle de Peter Levine. Je ne sais pas s'il y a des gens, ou Levine, je ne sais pas comment vous le prononcez ici en France, qui travaille en somatic re-experiencing. Bon, enfin, bref, lui a travaillé beaucoup en stress post-traumatique et ce qu'il suggère dans cette situation-là, c'est que le cycle qui permettrait donc à l'émotion de s'éteindre n'est pas complété, il est toujours interrompu. L'énergie qui est déployée et orientée vers la fuite se trouve à être interrompue à un moment donné, avant que l'on sente cette espèce de sensation d'avoir survécu, probablement une émotion très fébrile, un mélange de restes de peur et de grande joie d'avoir survécu. Et j'ai la conviction, donc, qui est assez empiriquement vérifié, mais pas scientifiquement vérifié, j'ai la conviction que ce moment-là est un moment très important dans le trauma. Cette espèce de « reset » en anglais, cette espèce de retour à la normale qui passe par une sorte d'exaltation, de grand soulagement, de fébrilité, de faiblesse et d'énergie positive, ce mélange-là, et qui fait que le corps a compris que la menace n'était plus là, le corps a compris qu'on avait survécu. Et nos clients, nous, souvent, en stress post-traumatique, souvent c'est cela, quand on fait un travail attentif sur le trauma, c'est ce qui manque. Et imaginons par exemple, dans le cas que je donnais, vous avez survécu en fuyant, et là, normalement, vous devriez être heureux, vous devriez être content d'avoir survécu. vous devriez être exulté. Et ce n'est pas ce qui se passe si, par exemple, vous regardez dans la salle et vous voyez plein de vos amis qui sont décédés. À ce moment-là, il y a une interruption de ces signaux-là. Vous ne pouvez pas vivre l'expérience d'avoir failli mourir et de survivre complètement. Vous avez failli mourir et vous êtes encore en danger parce que vous n'avez pas réussi à vivre cette expérience-là d'avoir survécu. Voilà. Donc, et le trauma, ce que j'utilise comme compréhension du trauma et qui m'aide beaucoup, c'est le maintien de la réponse instinctuelle de survie, donc qui reste chronique, que ce soit la peur, que ce soit la détresse de la séparation, la détresse de la perte, que ce soit la colère. C'est les principales émotions. Tantôt, j'entendais Jean-François parler de « seek » et de « play » dans les catégories de Panksepp. Moi, je suis beaucoup dans la peur, dans la rage, et je suis aussi dans l'angoisse de séparation. Et parfois aussi dans « seek », mais ce sera pour une autre fois. OK, donc, je vous présente quatre postulats qui sont à peu près les conclusions auxquelles j'arrive et ce de quoi je pars aussi en travaillant en trauma. Le premier, c'est l'instinct prédomine en situation de survie. Je pense que j'en ai assez parlé. Donc, des réactions automatiques, involontaires et déterminées par l'histoire phylogénétique. Hein? Quand la mort frappe, les instincts débarquent et s'occupent, prennent la relève, s'occupent de nous sortir de là, avec les moyens qu'ils connaissent. Hein. Si c'est une grande menace, ce sera la peur, ça pourrait être la rage, si c'est approprié. Si, par exemple, on est une jeune mère de famille, j'ai vu qu'il y en a qui étaient enceintes, et avec son enfant, il semble que ce soit un contexte où la colère peut être plus facilement et exceptionnellement déployée si le rejeton est menacé. Donc, déterminé par l'histoire phylogénétique, la preuve que ça fonctionne, c'est que nous sommes là. On a eu à traverser à travers notre histoire phylogénétique, des grands périls. Et les émotions nous ont sortis de là. Donc, et là, j'indique que je m'inspire beaucoup de Panksepp. Moi, j'utilise énormément Panksepp. Quand je suis tombé là-dedans, j'ai eu l'impression d'avoir une espèce de dictionnaire pour me permettre de comprendre les émotions en situation de survie. C'était très intéressant. Stephen Porges, que peut-être certaines personnes, je sais qu'il y a des gens qui connaissent ici, je trouve que c'est un des apports aux neurosciences les plus sous-estimés ou les plus sous-exploités. Et Peter Levine aussi, là, pour ne nommer que ceux-là. L'autre postulat, c'est le champ traumatique. Donc, j'ai aussi cette conviction-là que pour dénouer le trauma, il faut retourner au trauma, permettre à la personne de revenir dans le cursus de la situation traumatique et de pouvoir, avec elle, voir ce qui devrait être complété, ce qui n'a pas été vécu et qui devrait être complété. Marie-Pascal m'a suggéré aussi et m'a dit, écoute, c'est lorsque tu parles de ton cheminement que ça me rejoint. Hein? C'est comme ça que tu disais. Je parle de mon cheminement, donc, parce que Marie-Pascal me l'a demandé, j'ai confiance en ce qu'elle me dit.
Il est très, très obéissant.
Je suis de formation de base en thérapie cognitivo-comportementale. Alors, dans les années 80, j'ai été formé en TCC et j'étais bien content d'avoir cet outil-là pour commencer ma pratique. Et j'ai eu à travailler donc avec des gens qui souffraient de gros stress post-traumatique. Et la TCC s'est révélée parfois assez embêtante et assez décevante à utiliser parce que, en fait, on demande aux gens de s'habituer à quelque chose d'intolérable. Hein, parce que quand on fait de l'exposition prolongée, ou de l'exposition progressive, je voudrais dire, au trauma, on amène les gens à vivre une détresse dont ils ne se remettent parfois pas. Parce qu'on ne fait pas d'extinction en TCC, on fait de l'habituation, on demande aux gens de s'habituer à quelque chose qui peut être, en fait, inacceptable, intolérable. Donc, j'ai abandonné cette pratique-là, j'ai cherché vraiment ailleurs parce que je n'étais plus à l'aise de pratiquer la TCC. Et là est arrivé le courant EMDR, qui, moi, m'a éclairé pas mal, m'a aidé beaucoup. Donc, au début des années 2000, j'ai été formé par David Servan-Schreiber, que vous voyez ici, peut-être c'est votre compatriote, regretté compatriote, et peut-être que vous le reconnaissez et que vous l'avez connu. Et ce que je retiens de l'EMDR, c'est la chose suivante. D'abord, c'est un traitement qui peut être efficace pour le stress post-traumatique, surtout les stress post-traumatiques qui sont plus simples. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pratiquent l'EMDR? Ah bien, quand même, hein? Alors, vous pourrez être d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis. Et vous aurez l'occasion, d'ailleurs, de vous de le signifier. Donc, surtout pour les stress post-traumatiques simples, pour les stress de combat où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress en peu de temps et en même temps sur une longue période, parce que les missions sont des missions de 6 mois, il y en a plusieurs souvent, ça a aussi ses limites. Mais ce qui est intéressant du EMDR, c'est qu'on peut voir la neurodynamique du trauma se déconstruire. Quand le traitement fonctionne, on voit vraiment les dimensions somatiques, le corps du client change et change de manière durable. Les cognitions du client changent. Et ça, c'est fort intéressant. On voit des gens décliver tout à coup et spontanément se mettre à voir, par exemple, si c'est quelqu'un qui a été agressé, un viol, par exemple, ou un assaut, les gens se mettent à avoir une pensée plus objective, pas nécessairement de compassion, mais de compréhension envers l'agresseur. Donc, ils sont dégagés du trauma et en même temps, ils se mettent à décliver. Et ça, c'est très intéressant. L'émotion change aussi, la couleur de l'émotion change. Donc, les représentations et le corps et tout ça. Hein, parce que l'émotion, c'est ça, finalement. Hein? Non, c'est pas vrai. Voilà. OK. Alors, l'autre postulat, je l'ai annoncé un peu déjà, c'est le verrouillage des émotions dans le trauma. Et c'est ce dont je vous parlais lorsque je mentionnais que si, par exemple, vous voyez les personnes que vous aimez mortes alors que vous avez survécu, vous avez l'émotion de peur dont vous aimeriez bien vous débarrasser, mais vous ne pouvez pas vous en débarrasser parce que vous êtes tout à coup envahi, télescopé par une autre émotion qui est celle de la perte ou d'un autre type de peur. Donc, le verrouillage des traumas est quelque chose de majeur, de central. Et là, ici, ce que vous voyez, c'est des poupées gigognes. Et le travail en trauma procède souvent comme ça. En fait, on voit comme une coupe hein, de poupées gigognes. Poupées gigognes après chirurgie, donc. Et quand on ouvre un trauma, souvent, on va en trouver un autre qui est verrouillé là. Et on procède comme ça, un trauma après l'autre, pour dans le traitement. Voilà. Et le dernier postulat, je crois, est-ce qu'on est rendu à 4, c'est le postulat des deux affluents du trauma. Il y a très certainement une contribution de la personnalité dans le trauma. Ici, on se demande pourquoi cette personne-ci est traumatisée. Une bonne part de la réponse peut venir de sa personnalité, de la vulnérabilité de sa personnalité. On ne se trompe pas beaucoup. Ça, c'est dans certaines situations. Et dans d'autres, ce qu'on a, c'est peu de contribution de la personnalité et une forte contribution de l'événement traumatique lui-même, les circonstances de l'élément traumatique lui-même. Et là, ici, ce qu'on voit, la photo floue, c'est les chutes Montmorency. Et il y a deux chutes. Hein? Et parfois, c'était pour illustrer que parfois, la grosse chute, ça peut être le champ 4. Et parfois, la grosse chute, c'est le champ 3T. Ce qui s'est passé dans le champ 3. Et qu'à ce moment-là, la personnalité, il faut s'en occuper, il faut en tenir compte. Mais ce n'est pas par là qu'on a des chances, à mon avis, d'avoir le plus de gains. Moi, ça dit 22,50. Normalement, je devrais avoir encore 7 minutes et quelques secondes. OK, c'est bon. Oui. Alors, oui, donc le postulat, le quatrième postulat, c'est que les aspects développementaux et les... voilà. Et les aspects liés à l'incident traumatique du champ 4 contribuent dans des proportions infiniment variables. Je veux amener le fait que Donc, à un moment donné, je suis allé me former en PGRO. Et ça venait vraiment d'un besoin que j'avais en traitant les gens traumatisés, d'en savoir plus sur le traitement de la personnalité. Et la PGRO m'a vraiment ouvert un univers vaste et riche, m'a ouvert sur le champ 1, dont on parlait ce matin, m'a ouvert sur le champ 4 aussi, dont on ne m'avait pas beaucoup parlé jusque-là. Et curieusement, effectivement, on peut être formé en psychologie, avoir une carrière en psychologie et pas nécessairement travailler beaucoup quand on est en TCC, là, sur les dimensions développementales de la personnalité. Et après coup, c'est presque gênant. Je pourrais avoir envie de rembourser mes clients que j'ai vus avant la PGRO, mais non. Je ne le ferai pas. Donc, et là, ça a été la rencontre de Gilles, de Lynn et de la PGRO qui ont vraiment transformé ma pratique. Alors, ici, on reconnaît Gilles avec la perruque. Et je vous propose une illustration clinique du travail. Et là, j'ai été un peu audacieux parce que je prends un type de trauma assez rare, mais aussi très riche, il me semble, très porteur, si je parviens à articuler assez bien la démonstration. Et je veux parler du trauma de l'acte de tuer. Un des traumas les plus fréquents et un des plus résistants que j'ai avec mes soldats, c'est les soldats qui tuent. Et les soldats qui tuent souvent gardent une empreinte forte de cet acte-là qui les amène à changer comment ils se perçoivent, comment ils perçoivent le monde. Comment ils peuvent être ou ne plus être comme avant avec leurs proches aussi. Et c'est vraiment quelque chose de très perturbateur. Et il y a deux contextes où on peut avoir, où on peut retrouver l'acte de tuer. Et là, ce que j'aimerais introduire, c'est à la fois les dimensions neurodynamiques du trauma de l'acte de tuer, pour comprendre comment, pour illustrer comment le contexte d'un acte peut influencer comment on va le vivre. Donc, ici, on voit un combattant qui est en combat rapproché. Et ce combattant-là, vous comprenez que l'ennemi est de l'autre côté du mur. Et ça, c'était une situation très fréquente lors des combats en Afghanistan. C'est-à-dire que les territoires sont divisés par des murs et souvent, les talibans sont d'un côté, puis les Canadiens, dans ce cas-ci, sont de l'autre. Et puis là, à un moment donné, ils doivent gagner le feu parce que sinon, ça risque de mal aller. Donc, ils sont exposés aux tirs de grenades ou aux tirs d'armes légères. Et on peut imaginer dans quel contexte neurodynamique, disons, se vit ce combat-là. Okay? Il est en train de sauver sa peau. C'est lui ou c'est l'autre. Imaginez le niveau d'activation qu'on peut avoir dans un contexte comme celui-là. Et on a l'autre contexte de l'acte de tuer, qui est celui du tireur d'élite, du sniper. Et si on s'arrête à l'image, il faut savoir que ça prend une concentration et un niveau de détente extraordinairement élevé pour être capable de tirer. D'ailleurs, vous savez, il y a un Canadien, c'est un record de tous les temps, mais il y a un Canadien qui a débusqué un taliban à 2,4 km avec une .50 comme ça. Alors, ça, il ne faut pas bouger. Il faut vraiment être très, 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 très détendu. Et lorsqu'on est détendu, évidemment, on est dans une certaine situation neurodynamique et lorsqu'on est très activé, on est dans une autre. C'est compris. Donc, la question que je pose, c'est pourquoi certaines personnes, suite à l'acte de tuer, vont éprouver de la honte et pourquoi certaines personnes vont éprouver de la culpabilité? Si on pose la question à un PGRiste, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse? Si on se pose la question comme PGRiste, c'est, me semble-t-il, la personnalité. Hein? Probablement que certaines personnalités sont davantage promptes à la honte, d'autres davantage portées à la culpabilité. Mais il y a aussi le phénomène que certaines personnes vont éprouver pour des actes similaires, une même personne, parfois de la honte et parfois de la culpabilité. Si on dit que la personnalité est responsable habituellement du type de réaction, on se trompe souvent pas. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué que ça en état de stress post-traumatique. Donc, rappelons juste la manifestation de la honte. Là, j'ai préparé quelque chose, c'est un peu fait à la maison, là. C'est-à-dire que c'est vraiment une interprétation bien personnelle, mais je pense que vous pourrez commenter si vous n'êtes pas d'accord. Mais les caractéristiques de la honte dans l'état de stress post-traumatique, d'abord, c'est évidemment une émotion qui est tournée vers soi. Hein, je suis mauvais. Et c'est marqué par un désir de dissimulation, probablement l'introjection d'un opprobre réel ou imaginé. Souvent, ce que les gars me disent, c'est « faut pas que ma mère sache que j'ai fait ça. Je veux pas que ma mère sache que j'ai tué comme ça. » Et que j'ai éprouvé ça en tuant aussi. Ou qu'il y avait des enfants. Ou, bon, des choses comme ça. Et ils ont une honte d'être vus dans ça. Et la démarche de réparation, souvent, implique une certaine forme de dialogue avec les proches. Et, il y a un désir, une fantaisie d'être vu, compris, absous par l'autre, par les proches. Et habituellement, lorsque les gens traversent ça, après ça, il y a un dialogue imaginé avec les victimes. Donc, on passe de la honte vers la culpabilité. Et dans la culpabilité, ce qu'on a, c'est une émotion tournée vers l'autre. J'ai agi sur l'autre qui en est resté endommagé et je ne m'en remets pas. Les images qui me viennent, les images récurrentes qui me viennent, les flashbacks, c'est l'autre. L'autre en détresse, l'autre en train de mourir. Et les fantaisies de réparation sont souvent de se projeter à vouloir... réparer l'autre. Donc, c'est vraiment un regard de compassion pour la victime. Et souvent, ce qu'on voit, parce que là, j'ai introduit un peu des éléments de ce qu'on voit dans le traitement, hein, c'est la demande de pardon, pouvoir s'expliquer, pouvoir faire un geste réparateur significatif et éventuellement recevoir l'absolution des victimes. Et je vous ai parlé un peu de la neurodynamique. Il y a des choses qui ont été faites au CIG à ce sujet-là dont je m'inspire, évidemment. Mais dans la neurodynamique de la honte, ce qu'on voit, c'est l'acte de tuer qui est suivi d'une baisse de l'activation. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'après avoir tué, il se passe quelque chose, une inhibition de l'activation qui parfois peut être brutale. Tandis que dans la culpabilité, ce qu'on voit, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que la personne est très calme, elle tue, et là, ça va moins bien. C'est-à-dire qu'une sorte d'activation qui se passe, de grand malaise qui intervient. Et là, ce que je vais montrer, je vais développer un peu plus là-dessus, rapidement. Au niveau de la neurodynamique, de la honte, je veux introduire l'action du système sympathique d'activation et le frein vagal, qui est en fait une branche du système parasympathique. Et je vais en parler rapidement pour illustrer une chose. Bon, d'abord, ici, on est dans la honte, n'est-ce pas? Donc, l'acte de tuer pour sauver sa vie. Ici, est-ce que je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit. Alors, j'ai introduit quelque chose peut-être un peu rapidement. Mais ce que je remarque, c'est que les gens qui vont tuer dans l'activation pour sauver leur vie vont avoir davantage de honte. Tandis que les gens qui vont tuer, comme par exemple le tireur d'élite, vont être davantage dans la culpabilité, davantage dans des fantaisies de réparation de l'autre, davantage dans l'image de l'autre. Tandis que dans cette activité-là de tuer pour sauver sa vie, les gens sont davantage dans des images d'eux-mêmes, des représentations d'eux-mêmes comme mauvais. Ils ne voient pas l'autre. Donc, le frein vagal... initialement, dans l'acte de tuer pour sauver sa vie, il est très faible. Et c'est surtout une pression sympathique qui agit. Et là, tout à coup, intervient l'acte de tuer. Et vous savez, ce qui est très dérangeant dans l'acte de tuer, c'est que l'acte de tuer provoque du plaisir. Et les soldats hésitent souvent à le dire et finissent par le dire. Et quand ils le disent, ils se sentent vraiment très mal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on tue pour sauver sa vie, il semble y avoir quelque chose qui se passe, qui est vraiment une émergence qui est positive qui arrive et qui est rapidement suivie par une inhibition lorsque mon regard rencontre le regard de l'autre, pas nécessairement de la victime, mais de celui qui pourrait me voir ainsi excité d'avoir tué. Et il me semble que ça ressemble à la neurodynamique de la honte, n'est-ce pas? Et je m'inspire de cette compréhension-là pour voir avec mes clients qu'est-ce qui se passe en dedans d'eux. Et pour la culpabilité, je pense qu'on introduit beaucoup de concepts, hein, mais on pourra peut-être avoir le temps d'en discuter un peu. Pour la culpabilité, ce qu'on a, c'est au point de départ quelqu'un qui est très, très, très détendu. Quelqu'un qui, parce qu'il est détendu, a un frein vagal très fort. Okay. Et qu'est-ce qui arrive quand le frein vagal est fort? C'est que les fonctions d'engagement social sont ouvertes au maximum. C'est là où les capacités d'empathie, les capacités de ressentir ce que l'autre vit sont au maximum. Okay? Donc, imaginez que c'est dans cette condition-là, neurodynamique, que vous allez tuer quelqu'un. Pas étonnant que l'image de la personne reste aussi incrustée et que ce soit un acte aussi dérangeant et qui doit se travailler différemment que la personne qui est dans la honte. Voilà. Donc, on voit hein, qu'après, il y a le spectacle de l'autre mort et, qui est vraiment dérangeant et bouleversant pour la personne. Je m'arrête là en faisant un bref résumé. Hein, ce sur quoi je voulais insister, c'est sur l'importance des processus primaires et dans la réflexion à l'intérieur d'un travail en PGRO, une attention portée au phénomène de champ 3 et au processus primaire de cette nature dans le trauma, pour moi, mais très utile. Et évidemment, c'est un ajustement du travail thérapeutique en PGRO qui est un peu particulier. Je suis content de pouvoir vous en parler pour que vous puissiez réagir. Donc, vous avez compris que pour dénouer le trauma, il faut retourner dans le trauma, faire un travail en champ 3 et en champ 3T, puisque là, on parle de l'aspect traumatique du champ 3. Des enchaînements complexes, on est revenu là-dessus, là, les poupées russes. Et bien sûr, les facteurs du champ traumatique ne remplacent pas les facteurs du champ 4, ils les complètent. Et lorsque on fait un travail en champ 4 qui ne porte pas et qu'on a un trauma en champ 3, parfois ça vaut la peine de travailler davantage en champ 3. Et je vais passer la parole à Marie-Pascale. Et les découvertes de Marie-Pascale
sur le champ. Pas de pression. Écoutez.
J'aimerais quand même présenter Marie-Pascale un peu plus, de manière un peu plus complète. Marie-Pascale a toujours eu un vif intérêt pour la psychologie et la psychothérapie. Elle en mange. C'est vraiment quelqu'un qui est à sa place, tout à fait. Et ça, c'est de longue date. Et comme Marie-Pascale a de l'ambition, elle a amorcé des études en commerce et par la suite en traduction. Et par la suite, elle a fréquenté les écoles de Gestalt en France, puis la PGRO. Marie-Pascale est une besogneuse admirable. Est-ce que c'est un mot, c'est pas un mot péjoratif pour vous, ça, besogneuse? Hein?
Pas aujourd'hui. Okay.
Elle a co-traduit Cosolino, comme on l'a entendu ce matin. Elle est l'une des 60 superviseurs didacticiens du CIG. Et je pense que c'est tout un accomplissement. Elle fait école aussi en coaching. Elle est en train de rédiger un bouquin sur le sujet, entre autres choses. C'est assez remarquable. Et Marie-Pascale a accepté de tenter de tester le travail en champ 3T, c'est-à-dire d'avoir cette hypothèse-là en tête avec ses clients en thérapie, en coaching thérapie. Donc, ça a été très intéressant de pouvoir... suivre ça pendant cette année et demie-là.
J'aurais besoin d'aide technique, puisque je...
Okay. C'est bien connecté?
Oui, je suis bien connecté.
OK, veux-tu prendre mon ordi?
Non, avant ça marchait. Donc,
bon.
Je l'enlève.
Il n'y avait pas quelqu'un qui avait une chanson? Oui, il n'y a pas.
Ah, ça y est.
Jean-François qui avait une chanson.
Ça, c'est un peu le stress, en fait. J'appuyais sur les slides au lieu de l'appuyer sur le petit truc de PowerPoint. C'est... Oui, je vais. Oui. Je suis très connue pour mon esprit synthétique. Non, mais tout à fait. Alors, c'est quand même intéressant. Vous avez vu ce que vous a présenté François. C'était important pour moi que le public français puisse entendre ça. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ce type de discussion-là avec lui dans une pizzeria, dans une banlieue de Montréal. Et je me disais, tu me dis des trucs, mais comment moi je peux l'utiliser? Comment dans ma pratique de gestaltiste généraliste parisienne, pas du tout confrontée aux mêmes enjeux que toi, ni au même contexte que toi, comment je peux utiliser ce que tu me racontes? Ouais, il va falloir que je m'organise différemment. Hop, le contexte du binôme. Voilà. J'appuie pas sur les bonnes touches. Alors voilà, le contexte du binôme, vous l'avez compris. on ne vit pas tout à fait dans les mêmes environnements. Et moi, en fait, ce qui m'a motivée, on vous a passé un texte, hein, vous avez vu dans le texte, il y a la contribution de François, théorique, documentée, qui fait une dizaine de pages, et puis il y a ma contribution à moi qui a été comme un voyage, en fait. Depuis un an, je vous ai dans ma ligne de mire, mais en souhaitant vraiment vous partager mon expérience, quoi. La ligne de mire d'une paire de jumelles, pas... En souhaitant vous partager mon expérience. Et ce que ça m'a permis, le travail de François, c'est-à-dire penser le champ 3T, ça m'a permis de m'ouvrir. Parce que quand je disais « je veux quelque chose de novateur », c'est quand même pas rien, en PGRO, de s'intéresser d'une façon approfondie au champ 3. Parce que si Gilles, il a des souvenirs d'un practicum ou d'un expérientiel avec moi, moi, j'ai des souvenirs d'avoir été supervisée. Et au retour de supervision, d'avoir eu des commentaires du type « j'en ai vu qui ont fait de la psychothérapie ». Je vous rappelle que faire de la PGRO, c'est travailler dans le champ 1. Vous travaillez dans le champ 3, c'est très bien, vous faites de la psychothérapie, mais vous ne faites pas de PGRO. OK, très bien, j'ai enregistré. Alors, je me suis battue une partie de l'année pour pouvoir m'autoriser à me déployer dans le champ 3, parce que moi, je suis une adepte, classiquement, du schéma que vous avez vu ce matin, des transitions champ 4, champ 1. Le champ 3, pour moi, c'était donc un espace anecdotique, une espèce de banque de documents. Je l'écoute, parfois même ça m'intéresse à peine. J'écoute, puis je suis plutôt branchée sur l'émotion que ça peut me procurer, que le contexte. Enfin, je suis pas tellement... Voilà, c'est pas tellement un sujet d'étude. Donc ce que j'ai fait avec François, c'est me plonger dans deux choses, un, le trauma, et deux, le champ 3. Alors, ce qui m'a intéressé là-dedans, que je suis contente de vous partager, c'est cette histoire de traumatisme non précoce. On sait tous qu'on a grandi avec des difficultés, avec des chantiers développementaux plus ou moins achevés. Et pourquoi est-ce que ça s'arrêterait là? Parce qu'on a atteint la maturité ou on est jeune adulte. Ce qui m'a intéressé, c'est d'imaginer qu'effectivement, on pouvait vivre des situations qui sont fracassantes. Et ces situations-là, c'est pas tellement... Je ne me suis pas... Comment dire? C'est de voir, grâce à l'apport de François donc sur la dynamique des instinctives, c'est de voir, de se dire, tiens, comment est-ce que je peux travailler ça autrement qu'en passant par une reproduction du champ 4. Ça m'a amené, évidemment, à travailler avec un de mes auteurs favoris, qui est Panksepp, et... Je travaillais déjà avant avec Panksepp, mais de rester dans le champ 3, ça m'a amené à confronter l'épisode traumatique, la rupture traumatique, sans passer par la reproduction de traumatismes ou d'une histoire développementale. Donc ça veut dire qu'on change en termes de posture réflexive, on change ses paramètres. Quand la personne est en face de moi, je ne vais plus me poser la question, tiens, c'est quoi son type d'attachement ? Anxieux ambivalent, ou bien schizoïde évitant, ou bien je suis quoi comme reflet ? Un reflet d'alter ego, un reflet donc, d'estime de soi, etc. C'est plus ces questions-là que je me pose, mais c'est qu'est-ce qui est activé à l'intérieur d'elle ? Et pourquoi ça, c'est intéressant ? Qu'est-ce qui est activé à l'intérieur d'elle ? Parce que quand on est dans le traumatisme, on n'est plus dans sa régulation dynamique, énergétique, normale. Donc, ça nous invite à penser, un, qu'il peut y avoir des ruptures traumatiques non développementales, mais qui sont donc contemporaines, et deux, ça nous invite à traiter ces ruptures traumatiques dans un mouvement instinctuel, enfin avec la régulation des affects de base de Panksepp. Maintenant, je suis quand même une PGRiste. Et donc, moi, ce qui m'a intéressée avant tout, c'est comment je peux travailler ça en PGRO avec le champ 1. Donc, comment je peux faire des transitions champ 3T, champ 1. Qu'est-ce que ça engage chez moi ? Qu'est-ce que j'ai observé ? Qu'est-ce que j'ai remarqué ? Etc. Ça, c'est donc la deuxième partie de ma présentation. Dans le texte que François vous a écrit, enfin que nous avons coécrit, dans la partie que j'ai écrite, j'ai laissé les commentaires de François qui réagissait à ce que je disais. Et puis à un moment, je décris que je suis embêtée parce que je ne sais pas comment gérer les priorités entre le champ 3T ou l'histoire développementale de la personne, à quoi je donne priorité dans les émergences. Et puis, François répond quelque chose comme « il y a une approche méthodique ». Oh, on est le 10 août 2014. Et je me dis « oui, il y a une approche méthodique ». Ok, ça, et on voit bien dans l'exemple qu'il donne sur Joey dans le texte que l'approche méthodique, c'est de déplier les émotions, les affects de base de façon à ce qu'ils puissent se compléter. C'est l'approche de Peter Levine. Donc c'est ça, et c'est que on prend cette émotion, puis cette émotion dans son exemple tout à l'heure, il vous en a donné 4 ou 5 qui étaient arrêtés dans leur mouvement, et donc l'approche méthodique, c'est bien de revenir à ces émotions-là. N'empêche que le mot méthode m'a interpellée, et je me suis demandé, tiens, ça, si j'avais à vous partager quelque chose, c'est pas de la transmission, c'est vraiment un partage, à quoi j'ai dû quel est mon témoignage, qu'est-ce que je fais différemment depuis un an que je m'intéresse à ce champ 3T par rapport à avant. Et donc, vous avez vu l'araignée quand même méthodique, et donc voilà, je vous propose en 4 points, bien, je suis dans les temps. IDSL, ça vous rappelle quelque chose, IDSL? ADSL, ben c'est fait pour. Voilà, c'est un truc. L'approche IDSL, c'est pas ADSL, mais c'est pour que vous vous en souveniez. C'est facile. Le premier point, c'est d'identifier la rupture traumatique. C'est-à-dire, dans le discours du client, d'entendre que, effectivement, l'histoire qu'il est en train de raconter, d'une façon banale, c'est peut-être une histoire de l'ordre d'une rupture traumatique. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Donc, identifier la rupture traumatique, ça veut dire déjà être d'accord avec l'idée qu'il peut y avoir des événements de notre vie contemporaine, pas nécessairement immédiates, ça peut remonter à 20 ou 30 ans, en tout cas non précoces, qui laissent dans certaines situations, des impacts qui sont tout à fait limitants. Donc, identifier la rupture traumatique, chez le client, il y a un avant et un après. Ça, on observe ça aussi par l'altération des souvenirs, donc c'est s'intéresser un petit peu aussi évidemment au travail de la mémoire. et de l'axe hippocampe amygdale qui est coupé. Et puis, c'est d'observer, j'ai mis en mode survie d'une façon un peu provocante, c'est d'observer que la personne a une réponse émotionnelle qui est disproportionnée par rapport à l'événement en question. C'est ça, moi, qui me guide. C'est quand la personne est en terrorisée à l'idée, par exemple, d'aller rencontrer son patron. Ah, tiens, pourquoi l'environnement et le patron n'est pas terrorisant, mais la personne est terrorisée. Alors on peut s'intéresser de ça dans son champ 4, évidemment, et on peut aussi regarder ça d'une façon, je dirais, corporelle, somato-affective, pour pouvoir le déployer. Donc, identifier les ruptures traumatiques dans le champ 3, ça implique pour le thérapeute PGRiste, que je suis, hein, j'engage que moi, de changer de lunettes. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, c'est plus, je vais plus m'intéresser tant à Winnicott ou à Kernberg, je vais m'intéresser à comment fonctionne le système autonome, ce dont François a parlé. Je vais m'intéresser à ce que Cozzolino évoque sur l'axe hippocampe-amygdale, donc dans le fonctionnement de la mémoire. Et puis, je vais m'intéresser évidemment aux affects de base. Quand je dis que je vais m'y intéresser, c'est donc de prendre, disons, un peu son du temps pour s'informer là-dessus et pour penser comme ça. Ensuite, le deuxième, c'est D, dialoguer avec le champ 3T. Je suis assez contente de l'image que j'ai trouvée là, parce que je trouve qu'elle est à la fois complexe, il y a une immédiateté avec les chaussures, et puis ça s'envoie dans l'infini d'un gratte-ciel, dans le reflet. Elle est complexe parce que moi, pendant ces mois, où avec quelques clients, tant en coaching qu'en thérapie, je me suis vraiment intéressée à ça. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais... c'est qu'il fallait éviter l'évitement. C'est facile de ne pas s'intéresser à ce qui pourrait être un événement traumatique chez la personne. Je vois en coaching, par exemple, quand quelqu'un vient parce qu'il a besoin de développer ses compétences en leadership, et qu'en fait, il y a 2 ans, il lui est arrivé un changement de poste brutal. Ça arrive à beaucoup de personnes, ça arrive à 80% des personnes au-dessus de 55 ans, quelque chose comme ça, dans les milieux dans lesquels je travaille. Donc, on pourrait être tenté de croire que ça passe comme ça. C'est pas grave, OK, on va répondre aux objectifs qui sont assignés en coaching. Eh bien, éviter l'évitement, c'est pouvoir rencontrer la personne dans sa réalité expérientielle et émotionnelle. Et je dis dans mon papier, là, que je vous ai écrit, que j'étais avec un client qui... et pendant 1 an, on n'a pas parlé du deuil de son jeune frère. On n'en a pas parlé parce que j'étais dans l'évitement et qu'il était aussi dans l'évitement. Et que là, on était tous les deux dans une IP, coincés pendant plusieurs mois. Donc, éviter l'évitement, ça veut dire être en conscience que mais peut-être que ça peut vous parler à vous aussi, voilà, c'est facile de ne pas en parler.
Le jeune frère qui était mort dans un accident de voiture.
S'arrêter et étirer l'imaginal figé. Ça aussi, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que dialoguer avec le champ 3, il y a une image. Par exemple, cette personne qui pousse son chariot. Je mets ça aussi dans mon texte. Il pousse un chariot et il se voit avec 6 valises au-dessus de lui. C'est étirer ça. Alors, comme dirait Jean-François, c'est ralentir. Ralentir sur les images. De ce que la personne propose. Et si vous voulez, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est ralentir sur une image de champ 3, pas nécessairement sur une image de champ 4. Donc c'est cette liberté-là que ça m'a donnée, c'est de pouvoir travailler dans ce fameux champ 3. Donc s'attirer et étirer l'imaginal figé. Écouter et défricher le dialogue interne. Ça, c'est mon cher Cozzolino. Cosolino, il dit qu'il y a trois types de dialogues, dont l'un qui est le dialogue interne, automatique. Donc là aussi, c'est s'arrêter. Qu'est-ce que je suis en train de me dire quand je revis cette situation-là? Et enfin, dialoguer avec le champ 3, c'est ressentir et expliciter les ressentis. C'est-à-dire, là aussi, on est dans du somato-affectif, du sensito-corporel. Comment on dit?
Oui.
Voilà, c'est bien. C'est bien. Donc, ID, voilà. Hein, donc, identifier, dialoguer. Il y a se sensibiliser à la contagion émotionnelle. J'ai fait plus de cauchemars cette année que les autres années. Ça, c'était très curieux. J'ai été quand même incroyablement surprise quand je me suis aperçue à quel point, par exemple, j'ai un client qui parle de son fils qui roule à 130 en scooter et moi, je sens rien. Et c'est le soir que je réalise mais que j'étais complètement clivée. Donc, je vous invite vraiment à... En tout cas, voilà, c'est un de mes apprentissages de cette année. C'est d'être très vigilante à ce qui se passe en termes de dynamique transférentielle et de traitement des IP. On est dans des univers panxépiens. Les univers panxépiens, comme François, c'est les quatre dont on parle. Hein. C'est surtout panic, fear and rage. C'est vraiment... c'est comme de la boue. C'est-à-dire, c'est noir, il n'y a pas beaucoup de lumière, et on s'en prend plein la tronche. Et je voudrais être vraiment qu'on soit... Voilà, si je pouvais vous faire passer cette conscience-là. Co-construire un langage introspectif, c'est évidemment être dans l'intégration neuronale. Et puis, se brancher compassion... Ça, c'est aussi un de mes partages. J'ai pas mal d'amis qui ont fait des burn-out après s'être occupés de travailler dans des espaces comme ça. Et on parlait d'amour ce matin en thérapie. Et il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit par Mathieu Ricard sur quand on branche un neurone, enfin des électrodes sur l'empathie, ça réveille l'anxiété. Enfin, je veux dire, ça active une zone anxieuse dans le cerveau. Et quand on se branche sur la compassion, ça active une zone d'amour nourrissante. Donc, l'empathie fatigue et la compassion nourrit. Et se brancher compassion... Alors, je dis se brancher parce que moi, je ne suis pas une méditante. Je fais de la marche, mais je ne suis pas une méditante. Mais en revanche, j'y pense. Et en y pensant, à l'intérieur, paf, je bascule. Il y a comme un changement de paradigme. Ok, arrête de t'inquiéter. J'aurais mieux fait de me faire ça ce matin, j'aurais été moins en stress. Mais voilà, c'est vraiment pour moi un outil supplémentaire, me brancher compassion. Quand je travaille comme ça dans des univers, voilà. Et puis le dernier, le L, c'est favoriser les mises en lien. Le champ 3T, ça ouvre évidemment sur d'autres traumatismes plus anciens. C'est compléter les gestalt inachevés, notamment dans les deuils non terminés qui peuvent durer 20 ou 30 ans. Tenir les ambivalences dans du nouveau. J'aime bien ça, cette idée de tenir les ambivalences, parce que dans les affects de base, ce que disait aussi François, dans l'acte de tuer, il y a de la honte et il y a aussi du plaisir. Et quand on se remet en mouvement, dans le seeking, il y a aussi du seeking, puis il y a aussi du fear, où il y a aussi peut-être encore un peu de la rage ou des choses comme ça. Donc c'est tenir la complexité de ce qui nous anime. Et enfin, le dernier, c'est s'ouvrir à l'altérité. Quand on est dans ces zones-là, en survie, entre guillemets, alors que c'est inapproprié, on est aveugle. On ne voit pas l'autre. Donc, s'ouvrir à l'altérité, c'est évidemment avec c'est le thérapeute, mais c'est aussi le thérapeute qui peut encourager, dans le champ 3 du client, pour le coup, à ce qu'il s'ouvre lui aussi aux autres, notamment dans le support. Voilà, je vais m'arrêter là. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est, on en parlait un petit peu à table ce midi, c'est que je me suis intéressée à ça et du coup, moi, je ne travaille pas avec des gens qui sont en stress post-traumatique, pas du tout. Je travaille avec des gens qui ont eu des deuils difficiles ou bien qui se sont fait virer ou bien qui ont des situations dans leur travail, etc. Voilà. Et bien, de penser, de travailler avec ça, ça m'a permis, dans ces situations qui paraissent assez banales, de pouvoir les entendre là où eux, ils sont figés, alors que par ailleurs, ils ont un boulot, ils ont une famille, ils ont des copains, ils ont passé d'excellentes vacances cet été, etc., etc. Voilà. Donc moi, ce que ça m'apporte par rapport à l'expérience du champ du stress post-traumatique, c'est en fait, c'est comme si mon échelle d'évaluation des traumas s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup assouplie ou élevée, au contraire, quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Nous allons passer à la période de questions, mais cette fois, avant de passer directement à la période de questions, on a une période de quelques minutes qu'on vous demande de vous rassembler avec une personne ou deux autour de vous, de vous demander en fait ce qui vous a marqué plus des deux présentations, et si vous avez des questions, de vous en parler entre vous avant de passer directement à la période de questions.
T'es chanceuse de faire ça comme ça. Parce que c'est vraiment bien. Je te dis. Oui, c'était clair, ça allait. C'était juste pas parfait.
Non, non, t'as parfait les deux, vraiment. Bon, tant mieux.
C'est pour quelqu'un d'autre le prochain, c'est ça?
Oui, parce que des mecs, ça va, l'antichambre, c'est la MRC, quand c'est une fonction. C'est-à-dire vraiment, c'est ce que je veux dire. Je parle de ta représentation. Je pense que c'est mieux encore par exemple, parce que c'est une vie moins forte.
Bien, j'espère que vous avez bien discuté entre vous. Alors, on va passer à la période de questions. Un petit moment d'attention. C'est chaud, c'est chaud. Nous sommes dans l'lycée maintenant. On a une question.
OK. C'est plus une réaction qu'une question. Moi, je suis particulièrement sensible à ce que tu dis, Marie-Pascal, sur entendre le client dans le champ 3. Probablement que si on l'entend dans des espaces traumatiques dans le champ 3, dont il n'a pas conscience qu'ils sont aussi traumatiques que ça, on fait enfin autre chose que ce qu'on a fait avec lui dans son enfance, c'est-à-dire de ne pas entendre et de banaliser ou de relativiser des situations traumatiques qui n'apparaissaient pas comme telles aux parents. C'est pas grave, ça fait pas mal, t'inquiète pas, on passe à autre chose. Et c'est comme si, à restaurer le champ 3 traumatique, on se met enfin à entendre vraiment à des endroits où les clients ne sont pas en capacité d'entendre parce qu'on ne les a jamais entendus à ces endroits-là. Et je trouve ça très précieux comme point de vue.
Merci. On vous demanderait de vous lever debout pour ceux qui posent leurs questions.
Ah, ça tombe juste sur moi. Bon, alors je me lève. Bon, c'est une question pour tous les deux. En fait, j'aimerais...
Plus près du micro. Non.
Pardon. Oui, une question pour tous les deux. Moi, je n'ai pas bien saisi comment vous articulez le champ 3. J'ai bien compris que vous allez sur ce champ-là. Mais comment vous l'articulez avec le champ 1, concrètement? Comment vous faites cette espèce d'aller-retour qu'on fait entre champ 1 et champ 4, j'imagine quand même que cette singularité de la PGRO va se retrouver là.
Quand je dis par exemple étirer oui. une image figée, cette image, elle m'habite aussi. C'est-à-dire que c'est exactement la même, c'est la même posture que dans le champ 4, c'est-à-dire que c'est la même posture. Non, je suis dans le champ 1. Et je suis avec les affects terribles, la terreur, etc., de la personne. Donc, je fais le même travail imaginal, je me prête. Par exemple, il y a 3 jours, j'ai travaillé, c'était en coaching, avec quelqu'un, et on travaillait sur, dans sa sphère professionnelle, un patron, sur la peur, la colère, la co-construction et le jeu qu'il mettait dans différents domaines de son boulot. Et à un moment, j'étais pas mal mobilisée, puis à un moment, je me suis sentie partir un peu. Ça a duré quelques secondes. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait après? On a travaillé sur sa colère. Mais c'est vraiment parce que j'ai eu, grâce à notre rendez-vous aujourd'hui, j'ai pas mal réfléchi à la façon de ce que j'ai de l'évitement, etc. C'est parce que j'ai vraiment eu cette conscience-là que j'étais en train de changer quelque chose à l'intérieur de moi en termes de dissociation, que paf, je suis revenue. Donc c'est ça, c'est le même travail, en tout cas pour moi, mais pas avec. C'est pas nécessairement le même transfert. Je suis pas une bonne mère nécessairement à cet endroit. Et je pense que là, François aurait une autre réponse à vous donner.
Merci.
Il faudra bien que j'en ai une. Mais effectivement, le travail en champ 1 demeure très important. Souvent, ce qui se passe en champ 1 va être révélateur de ce qui n'est pas encore révélé. Par exemple, le ressenti du thérapeute parfois est très important dans le questionnement ou dans l'intervention qu'on peut faire pour révéler quelque chose, une chose à laquelle le client n'a pas accès. Parfois, il nous raconte des choses, sans, avec, avec l'air de ne rien ressentir. Et évidemment, le thérapeute peut le ressentir et porter l'émotion. Et en ce sens-là, effectivement, ce n'est pas différent du travail qu'on peut faire lorsqu'il y a des enjeux de champ 4 là, qui apparaissent. Je devais dire quelque chose aussi d'intelligent par rapport à... par rapport au lieu de la réparation. Peut-être que c'est de ça dont on devrait parler. La façon dont la réparation va se faire en trauma, lorsqu'on n'adresse pas des problématiques de personnalité, et il y a une posture un peu différente, en fait, où on accompagne le client dans son champ 3 et où la réparation ne se fait pas nécessairement dans la relation thérapeutique, c'est-à-dire que ce n'est pas la relation thérapeutique qui est blessée. Et donc, c'est un accompagnement qui va être différent. Il est possible que par la suite, il se fasse un travail dans le champ 1 de réparation d'autre chose, d'un complément, d'une préparation de ça aussi. Mais dans le traitement du trauma lui-même de champ 3T, je suis porté à dire que la plupart du temps, ce n'est pas dans la relation thérapeutique, ce n'est pas la réparation ou l'ajustement dans le champ 1 créateur, là, dans le champ 1 qui va amener, qui va résoudre le trauma, disons-le comme ça.
Pour le bénéfice aussi de tous, ceux qui posent des questions, se lever debout et vous nommer également.
C'est de plus en plus difficile et exigeant. Hein? Je ne voudrais pas être à votre place.
Oui, moi j'ai juste besoin de mots. J'ai entendu une émission à la radio hier. Il y avait une interview, on évoquait l'interview du pilote qui a lâché la bombe sur Hiroshima. On lui avait demandé à quoi il pensait au moment où il a lâché la bombe. Et il disait, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux 175 euros que je dois encore pour le frigo. Et je ressens très bien de quoi il s'agit, mais je n'ai pas les mots pour parler du processus. Et puis surtout, à partir de cette constatation, comment intervenir, même si je n'aurais jamais ce genre de personne face à moi.
Est-ce que cette personne-là rapportait à être traumatisée? Je connais pas l'histoire. En fait, je connais l'histoire de la bombe, mais pas l'histoire du pilote. Est-ce que cette personne-là rapportait à être traumatisée ou un stress post-traumatique par rapport à ça? Parce que il est possible, il est mort fou, oui. En fait, je pense qu'on peut lâcher des bombes sans éprouver de stress post-traumatique. Mais dans certaines situations, ces actes-là vont marquer. Et le plus on est proche et le plus on est perméable à l'autre qu'on détruit, le plus, évidemment, c'est troublant. Et le plus c'est difficile de métaboliser l'émotion qui est liée à ça. Hein? Par exemple, parfois, dans des combats, les gens vont tuer et après ça, se rendre compte qu'il s'agit d'enfants et de soldats enfants. Et ça, c'est très, très troublant parce qu'en fait, normalement, ils devraient être capables de se réjouir d'avoir gagné le feu. Et ils devraient être capables de se réjouir d'être sortis en vie, finalement, c'est ce que ça veut dire. Ma façon de m'exprimer peut un peu choquer, je comprends. Moi-même, ça me choque un peu de m'entendre. Mais il en demeure pas moins qu'il y a là quelque chose d'important dans la compréhension du trauma et du traitement du trauma. Hein? C'est-à-dire que la façon dont on peut vivre l'acte, là on parle de l'acte de tuer, mais n'importe quel acte de guerre, et de compléter le cycle émotionnel des processus primaires, en pouvant accueillir le fait qu'on ait survécu, par exemple, peut limiter le stress post-traumatique.
Ma question est pour François. J'aimerais revenir sur le travail du champ 1.
Oui.
Particulièrement ce qui touche la honte du soldat.
Mm-hmm.
Et je me faisais la réflexion suivante, à savoir que il te révèle des choses devant le regard du thérapeute. Donc, évidemment, le travail, oui. C'est ça. Donc, j'imagine que ça doit ressembler un peu au travail du champ 1 et du champ 4.
Oui. Oui, effectivement, pour cette partie-là du traitement, le lien thérapeutique, ce qui se passe dans le champ 1, la capacité de le dire d'abord, juste le fait de le dire, on sait que c'est quelque chose qui est caché. Alors, le fait de le dire au thérapeute, de pouvoir avoir la réaction du thérapeute, que le thérapeute s'interroge sur sa réaction, qu'il puisse faire une herméneutique là-dessus, c'est effectivement, là, on est dans de la PGRO. Mmh, ouais.
Il y a un foyer de questions ici, là.
Oui, ça s'adresse aussi à toi. J'ai trouvé l'exposé sur les traumatismes de guerre psychologiquement très intéressant. Puis moralement, ça m'a dérangé, en fait. Ça m'a beaucoup dérangé parce que, d'une façon un peu provocatrice, ce qui m'est venu, la question que je me suis posée, c'est les Afghans, ils ont quoi en champ 3T ? Est-ce qu'on s'intéresse à ça ? Est-ce que ça existe chez eux ? Et si ça n'existe pas, alors quid de l'universalité du sentiment de honte, de culpabilité et du traumatisme suscité par la mort donnée ou frôlée ? Le complexe d'Oedipe, c'est universel, ça touche tout le monde, toutes les sociétés, toutes les races. Est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose de spécifiquement occidental touchant le blanc du 21e siècle de l'hémisphère nord ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à tous ? Et je reste avec cette interrogation, puis j'ai un petit frisson en disant tout ça, je suis vraiment pas bien. Et en même temps, je comprends ce que tu dis. J'ai eu dans ma patientèle, j'ai eu un légionnaire, tireur d'élite, et je me rappelle très bien le bond qu'il a fait dans le fauteuil au moment où il m'a relaté le moment où il a appuyé sur la détente. Ça se passait à Beyrouth, au Liban, il y a déjà très longtemps. Et j'ai beaucoup de compassion. C'est pas une accusation, mais voilà où j'en suis avec ça.
Oui, je comprends cette réaction. Et il y a peut-être aussi, dans ma façon d'avoir présenté aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai évacué peut-être et qui fait que ce métier-là est un métier... travailler avec les soldats hein, et le stress post-traumatique, c'est un métier qui peut être nourrissant et rassurant sur le plan humain. C'est la compassion des soldats eux-mêmes pour leurs victimes, leur préoccupation qu'ils ont pour les populations civiles, pour les gens qu'ils ont, le questionnement sur le sens de cette guerre-là, le sentiment d'avoir participé à un grand gâchis, d'avoir finalement aidé personne, et le souvenir qu'ils ont de personnes précises qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils ont croisées et dont ils ont mesuré la détresse et qu'ils ont compris comme étant une détresse et qu'ils l'ont vécu comme étant une détresse authentique, respectable et très certainement affligeante. Et il me semble que ça, c'est le spectacle des militaires qui s'en font pour les autres est quelque chose qui devrait nous rassurer. Et la lecture qu'on peut faire des neurosciences, la lecture qu'on peut faire ça avec les neurosciences aussi est quelque chose qui est rassurant. Comment ce qui arrive à l'autre nous marque tant et comment cela est inscrit dans nos instincts, dans des processus primaires qui s'activent. Et à ce niveau-là, il me semble que c'est moins désespérant quand on le regarde sous cet angle-là.
Oui, donc moi j'avais une question pour toi, François. C'est parce que j'ai été très intéressé quand tu as évoqué la différence entre la situation qui va faire émerger de la culpabilité et la situation qui vont faire émerger de la honte. Et la question, c'est comme accompagnant, thérapeute, comment, si tu pouvais donner un exemple des différences de posture que tu peux avoir pour traiter, aider à avancer dans ces deux situations. Et la deuxième chose, c'est que je suis content que il y a la question de Michel, parce que dans ton exposé, je trouvais qu'il y avait une part qui était un peu évacuée, mais tu viens de la redonner. C'est la question de la souffrance éthique. Parce que je crois que ce n'est pas pareil si on est soldat et qu'on agit et que ça a du sens, et qu'il y a une construction de sens qui est possible, que quand on demande aux soldats de faire des choses qui ne correspondent pas à son système de valeurs. Mmh. Et je pense qu'il y a un auteur, par exemple, qui est ici en France, Christophe Dejours, qui a beaucoup mis en évidence ces souffrances-là. Et elles existent aussi dans les entreprises. C'est-à-dire quand on demande aux gens de faire des choses qui ne correspondent pas à leur système profond, par exemple, éthique, morale, etc. Mais bon, cette partie-là, c'est surtout la première partie que je te demande de...
Oui, c'est ça. En fait, pour la deuxième partie, elle n'est jamais évacuée et ce n'est pas le thérapeute nécessairement qui a besoin de l'amener. Les militaires, eux, l'amènent en cours de traitement. Le traitement de la honte et le traitement de la culpabilité, ou en fait, comment approcher la honte, comment approcher la culpabilité, c'est effectivement quelque chose de il y a une nuance à faire. Il y a une nuance à faire parce que dans la honte, souvent, il faut aller vers une émotion antérieure qui est restée verrouillée, qui est celle de la peur. Qu'avait-il, que se passait-il avant qu'il tire? Et souvent, l'affliction de la honte prive de la représentation de la peur qui est en dessous et qui la verrouille. La peur comme une forme d'énergie qui finalement demeure et là se trouve à énergiser aussi l'affliction d'être vu ayant tué. Et souvent, il faut procéder à rebours, aller voir « mais avant hein, », juste avant de tirer, que se passait-il? Ramener les manifestations de la peur, les évocations de la peur, les sensations liées à la peur, et faire ce travail-là d'exploration. Et après ça, ça rend le geste, ça met le geste dans son contexte, et au moins ça peut mettre... établir une chose, c'est « heureusement, tu t'en es sorti ». Et parfois, une intervention peut ressembler à je partage cette douleur ou cette affliction pour l'autre qui est mort. En même temps, une partie de moi ne peut pas s'empêcher de se réjouir que tu aies survécu. Tu sais, c'est la complexité de l'acte de tuer. Mais amenant ça, si ça peut amener une évocation de cette joie-là, enfin permise, pour dédouaner un peu le geste, qui est un geste d'une complexité et d'une gravité extrême. Mais malgré ça, il ne faut pas que ce geste-là empêche l'évocation de la joie, de la chance d'être là et de ce que cela signifie pour ses rapports au thérapeute et aux autres aussi. Rappelons-nous que la personne dans la honte est une personne qui ne veut pas être vue par sa propre mère. Il est souillé. On devrait le rejeter. Et ça, c'est un travail qui est un travail de distinction, un travail patient dans le champ 3T et dans le champ 1, bien sûr. Dans la culpabilité, souvent, c'est plus complexe un peu. Et il faut... souvent aussi essayer de voir quelle émotion il y avait avant, parce que dans ce grand calme-là, on a aussi un individu qui est à la guerre. Donc, il faut aussi en tenir compte. Et souvent, le travail dans la culpabilité va être un travail dans la fantaisie. Et c'est étonnant de voir, à un moment donné, les gens construisent une fantaisie et ça nous rappelle... ce qui s'est fait ce matin, ce qui s'est dit ce matin, c'est qu'on construise une fantaisie de réparation qui fait du bien, où il y a un dialogue avec la victime souvent, où il y a un dialogue empathique avec la personne que j'ai tuée, de la personne qui a tué envers la personne qui a tué aussi. Cet échange-là, le besoin d'entendre quelque chose de l'autre, parce que c'est une relation inachevée. Hein. L'autre a quitté en détresse, mort ou presque mort, et je ne peux plus lui parler, je ne peux plus... La relation se termine brutalement et je reste avec les derniers moments de la relation. Donc, la production d'une fantaisie de réparation est importante. Je ne sais pas si ça éclaire un peu.
Oui, Philippe Cardo, moi je voulais savoir si un client qui aurait vécu avec un parent... aux prises avec un stress post-traumatique extrêmement puissant, peut être lui-même activé du même niveau. Auquel cas, comment travailler ça, c'est-à-dire comment travailler sur un trauma qui n'est pas le sien, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a effectivement des effets transgénérationnels?
On pourrait être dans le champ 4 à ce moment-là, hein, facilement. Là. J'ai peu de choses très intelligentes à dire là-dessus, sinon que je sais qu'il y a de la recherche qui s'est faite, entre autres en Israël, sur les enfants et petits-enfants de survivants de l'Holocauste, qui démontraient une vulnérabilité traumatique plus grande chez les enfants et les petits-enfants. Mais sinon, je ne pourrais pas élaborer davantage.
Oui, David Robitaille. C'est une question surtout pour François. Donc, je suis médecin psychiatre à Montréal. Donc, je vois à l'occasion des combattants, des gens qui ne sont plus dans l'armée ou qui n'ont pas eu de soins de l'armée. Puis, cette complexité-là m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très didactique de se questionner sur les gens qui ont tué. La question de la différence entre la honte et la culpabilité me paraît bien complexe et je voulais soulever un élément puis avoir vos réflexions. Il y a quelque chose où le combattant est à la fois victime ou en danger et à la fois l'agresseur, mais il y a une grande proximité avec la projection de l'agresseur, de la personne. Par exemple, le Taliban, qui envoie comme projection, tu ne vaux pas la peine, tu dois être tué, je dois te tuer, puis tu es en faute. Et tout d'un coup, on se défend, puis on tue cette personne qui nous envoie ces projections-là brutes et très intenses. Donc, c'est une question réflexive. Qu'est-ce que vous faites avec ça ou qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça?
Est-ce qu'on parle de la rage qui est cultivée ou de la colère qui est cultivée de l'un vers l'autre? Est-ce que...
Je dirais, est-ce que...
Ou le mépris?
Est-ce que dans la différence entre la culpabilité et la honte, il peut y avoir une part des projections de la personne qui nous menaçait, qu'on a tué?
Ah oui, c'est intéressant. Il faudrait y réfléchir. Marie-Pascale, as-tu réfléchi à ça? Mais c'est très intéressant. J'ai parlé de la culpabilité, de la honte comme illustration des processus primaires. On est peut-être moins dans les processus primaires à première vue, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Mais je trouve ça intéressant quand même comme hypothèse. Peut-être qu'Alain Mercier pourra en parler demain matin alors qu'il va parler de la mentalisation.
Je pense que vous avez compris, c'est Alain qui va amener toutes les réponses.
Il est 16 heures.
Nous devons arrêter. Il est 16 heures, on va créer sûrement des frustrations. Je voudrais vous remercier. Je pense que c'était courageux ce thème-là et vous êtes exposé dans votre pratique et votre clinique. Alors merci encore. Merci.